Bonsoir et bienvenue dans Ondes Noires, l'émission polar la plus rock de la bande FM.
Bonsoir Jacques.
Bonsoir Corinne.
Eh bien voilà, donc au sommaire de cette émission, on va commencer par une rubrique un petit peu, avec, au ton un petit peu désuet on va dire, puis un coup de cœur de la part de Jacques. Et dans la deuxième partie d'émission, nous aurons le plaisir de recevoir un auteur qui nous amuse beaucoup avec un excellent roman, c'est Sébastien Gendron. Donc comme je vous l'ai dit, la première chronique, elle pourrait s'appeler, pourrait s'intituler un peu Vintage. Car les deux romans dont je vais vous parler sont un petit peu le suranné, l'ancien, les chemises à carreaux de l'Ouest américain et les t-shirts aux couleurs délavées. Vous savez, c'est en la pleine mode maintenant, avec des fausses vraies publicités dessus. Le premier de ces romans se passe à Tucson, Arizona. Le deuxième à Valentine, Nebraska. Le premier a été écrit en 1956, le deuxième en 2005. Donc le premier, c'est une réédition d'un roman qui a été retraduit par Emmanuel Payet en 2010. Car, comme il le dit très élégamment dans sa préface, faut refaire la toiture parce que le temps passe. C'est élégant et gentil pour la précédente traduction. Ce livre, faut quand même que je donne le titre, c'est La Bête de Miséricorde et c'est de Frédéric Braun.
Non, Frédéric.
Frédéric Braun. Excuse-moi, mais après ça fait un petit peu allemand, ouais. Si tu veux, donc ça faisait un peu drôle. Ce livre, il est plutôt loin des recueils tout à fait jubilatoires, que ce soit des recueils de nouvelles ou certains romans qui ont été écrits par l'écrivain dans ces années 50-60. Et c'est là un roman bien sombre, très très noir. Au début du roman, on a un homme qui découvre un cadavre enterré dans son jardin. Les flics enquêtent et trouvent rapidement l'identité de l'homme assassiné. Et alors là, déjà, le noir arrive. Ancien rescapé des camps de concentration, il a émigré au Mexique, puis après un nouveau malheur aux États-Unis. Et juste quelques semaines avant d'être tué, sa femme et ses trois enfants ont trouvé la mort dans un accident de la route. Il conduisait. Devant cette avalanche de malheurs, les deux flics qui enquêtent, c'est-à-dire Frank Ramos et Red Cahan, ils vont penser à un suicide. Mais les circonstances montrent très vite que c'est absolument pas possible. Frank, le premier flic, est persuadé que c'est le propriétaire du jardin où on l'a trouvé, qu'il l'a trouvé d'ailleurs, qui s'appelle John Medley, qui l'a assassiné par une sorte d'altruisme, voyez, miséricordieusement. Et en gros, ce roman, que je trouve vraiment formidable, c'est pas, ne vaut pas vraiment ni par l'intrigue ni par l'enquête. Car dès le début, le lecteur va apprendre l'assassin, va se connaître l'assassin dès le début du roman. Non, l'intérêt ici, c'est de suivre, en gros, les différentes voies de narration. Chaque chapitre est en effet l'occasion de changer de narrateur. Les deux flics, l'assassin, on revient aux deux flics. Ainsi, le plus captivant est de comprendre les motivations du meurtrier, sans jamais, d'ailleurs, grâce au subtil récit de Frédéric Braun, d'avoir la tentation de le juger. Et ça, c'est vraiment très très bien fichu. En gros, miséricordieux ou bestial, le titre indique déjà la complexité du récit. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'on va suivre, dans la narration des deux flics, leur vie, et au-delà même de ces flics, on va aller bien plus loin que l'enquête. Red, le plus jeune, va trouver la félicité conjugale en se fiançant à Caroline, qu'il rencontre lorsqu'il va l'interroger. Et Frank, lui, par contre, est en plein marasme. C'est une sorte de vase communicant, tandis que l'un monte vers le nirvana, l'autre tombe en enfer. Sa femme Alice est alcoolique, il vit dans la peur qu'elle le quitte, il se rend compte qu'elle le trompe, bref, ça va de mal en pis. Comme on dit maintenant, c'est un roman polyphonique, un roman choral. C'est deux termes à la mode actuellement, mais en 56, je vous rappelle que ce livre a été écrit en 1956, je dirais que c'était presque une innovation. En tout cas, c'est une trouvaille parfaite pour rendre compte de la complexité des histoires ici évoquées. Celle de la victime, celle du meurtrier, les vies des flics, et par-delà, une sorte de chronique sociale d'une ville du sud des États-Unis. D'après tout ce que je viens de vous dire, vous devrez imaginer un gros pavé de 500 pages. Bien non. 210 format poche. Écriture épurée à l'extrême. En quelques mots, tout est dit. Il suffit d'un, je cite, « il n'irait pas poser une main amicale sur l'épaule d'un noir » pour décrire en une demi-phrase tout le racisme dans cette ville des États-Unis. Autre phrase. Vous aimez le square dance? Vous comprenez tout de suite que le flic Kahan vient de tomber éperdument amoureux. Donc, je rappelle La Bête de Miséricorde, traduction d'Emmanuel Payet, et je n'ai pas cité les éditions. Donc, je dis les parce que il a été retraduit pour Moisson Rouge il y a à peu près un an et il vient de ressortir chez Poinceuil actuellement. Le deuxième livre, je parlais de vintage. En gros, quand on commence ce bouquin, quand je commence ce bouquin en tout cas, j'ai l'impression de me couler dans un beau, bon vieux fauteuil qui épouse parfaitement les formes et qui donc dans lequel je suis tout à fait bien. Ce livre, il s'appelle Rain Dogs et son auteur, c'est Sean Doolittle. Et il convient parfaitement à nos goûts littéraires. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir lu cette histoire 10 fois, mais l'écrivain joue parfaitement cette partition du bon polar américain quelque part dans les grands espaces de l'Ouest. La recette est connue. Vous prenez un journaliste en pleine descente aux enfers. Ici, la mort de sa petite fille, qui a aussi entraîné après l'explosion de son couple. Vous le plongez dans un alcoolisme non modéré, puis vous l'envoyez dans un trou perdu. Donc, comme je l'ai dit au début, Valentine dans le Nebraska. Ici, un camping hérité de son grand-père, au fin fond du Nebraska, pardon. Vous provoquez une catastrophe, un meurtre irrésolu, ou bien, dans Rain Dogs, l'explosion d'un labo de drogue clandestin. Vous saupoudrez le tout de flics bien péquenauds, bien ripoux. Vous vous imaginez que le héros de ce roman, Tom Coleman, de son nom, va évidemment avoir envie de se mêler de ses trafics et magouilles et de recommencer à enquêter ce qu'il faisait quand il était journaliste avant sa déchéance. Et vous obtenez un petit bijou. Car ce n'est pas parce que les thèmes ont déjà été interprétés que cette version est décevante ou ennuyeuse. Bien au contraire. Sean Doolittle fait honneur à ses aînés. Des personnages attachants, sans excès. Des fiefés salauds, tout en nuances. Une émotion retenue et subtile, sans effet de manche ni dégoulinage de bons sentiments. Les torrents, eux, sont bouillonnants. Les routes pleines de poussière et les éléments se déchaînent. Et tout ça, c'est bien bon. Rain Dogs, c'est aussi le titre d'un des plus beaux albums de Tom Waits. Là où peut-être il utilise le mieux sa voix barrée, sa voix cassée, qui sent le bourbon et les Lucky Strikes. Ben, c'est un petit peu cette voix que j'imagine pour Tom Coleman, le personnage principal de ce bouquin. Et puis, tiens, j'imagine même le personnage de Tom Coleman dans le physique de ce chanteur, comme on a pu le voir dans un très très beau film qui s'appelait Shortcut de Robert Altman. Bref, voyez, je vous ai un petit peu donné quelques clés. Ce que j'ai complètement oublié de dire, c'est que ce roman est sorti il y a 1 ou 2 mois chez Rivage Noir et qu'il est très bien traduit de l'américain par Sophie Aslanide. Excusez-moi Sophie, c'est peut-être Aslanides, mais je ne sais pas. Je ne fais que le lire. Voilà, un petit peu de musique, Jacques.
Eh ben, puisque tu parlais d'un roman qui s'appelle Rain Dog, tu parlais de Tom Waits qui a fait un album qui s'appelle Rain Dog, nous allons écouter dans cet album la chanson qui s'appelle Rain Dogs.
On appelle ça éponyme, non ?
Exactement.
C'était donc Rain Dogs pour illustrer Rain Dogs à partir de Rain Dogs. Et tiens, on a oublié d'expliquer Rain Dogs, ce que ça veut dire. C'est quand on est mouillé comme un chien, et ce sont les chiens qui se perdent, qui perdent leurs odeurs et qui n'arrivent pas, un chien perdu qui n'arrive pas à retrouver sa route à cause de la pluie. Voilà, quand même, on a donné la petite explication. Et Jacques, ma voix déraille, tu vas nous parler d'un de tes coups de cœur.
Oui, le coup de cœur, disons, du mois, un roman de Franz Delplanque qui s'appelle Du son sur les murs et qui est paru au Seuil dans la collection Roman Noir, en grand format, donc pour 21,50€. Alors, dans ce roman, un certain John Ayaramendi, il est basque, c'est un tueur à gages. En fait, plutôt, c'était un tueur à gages, car maintenant, il coule une retraite cool, c'est amusant, et bien mérité après 30 meurtres parfaitement réussis. Il vit désormais au bord d'une plage sur la côte basque, le genre d'endroit où il n'arrive jamais rien, à part des vagues pour les surfeurs. Mais voilà, il faut bien qu'il y ait le livre, il va déroger à sa règle et tuer quelqu'un gratuitement. Pour les beaux yeux, et le reste aussi, d'une belle jeune femme que son mec maltraitait.
Donc il tue le mec.
Le bad guy.
Voilà.
Plus tard, quelques pages plus tard et quelques temps plus tard dans le temps, Al, le pêcheur taciturne, qui est aussi le nouvel amant de Perle, la si belle jeune femme, disparaît. Et alors, finit la vie tranquille, les petits coups au bar à bavarder tranquille avec le patron en écoutant du bon vieux rock bien graisseux. Il va partir à la recherche d'Al, parce que d'Al, ça veut pas terrible, et en même temps retrouver son passé, ses relations, ses employeurs, et se retrouver, il faut bien l'avouer, dans la merde. Car maintenant, c'est lui qu'on veut tuer. C'est donc le premier roman de Franz Delplanque, et c'est vraiment très bien foutu. Cela va très vite, des chapitres courts qui s'enchaînent à toute vitesse, des dialogues qui fusent, et avec de constantes références musicales. D'où d'ailleurs probablement le titre Du son sur les murs. Le narrateur s'adresse même parfois directement au lecteur quand il parle d'un groupe. Vous devriez essayer d'écouter ça. Des références musicales qui sont plutôt d'ailleurs de très bon goût.
Enfin, tout au moins pour tes goûts.
Certainement. Par exemple, il y a un moment, un personnage en pleine déprime qui, pour faire passer sa déprime, décide de réécouter l'intégrale des chansons de Frank Zappa, des disques, des albums de Frank Zappa. Et il y en a quelques-uns.
Je suis pas sûr que ça le sorte de sa déprime, mais enfin bon, un avis très personnel.
Donc, on peut penser qu'un personnage qui fait ça ne peut pas être complètement mauvais, et l'auteur qui met ça qui fait faire ça à son personnage, certainement pas non plus. C'est en gros, en fait, pratiquement le roman idéal pour Ronde Noire, qui, je le rappelle, prétend, avec juste raison, être l'émission la plus rock de la bande FM. L'émission polar, quand même.
Oui, exactement, plus sympa.
Donc, c'est un polar avec plein de références musicales. D'ailleurs, je mettrai la playlist de ce roman, et au moins une quarantaine ou cinquantaine de références, sur le site de l'émission dans quelques temps, et Corinne va nous rappeler.
Si elle s'en souvient, la petite Corinne, les références internet n'étant pas son fort, ondenoir.com, ondenoir, voilà. Tout attaché, au pluriel.
C'est exactement ça. Donc on va quand même revenir au roman. L'intrigue est suffisamment embrouillée pour tenir en haleine le lecteur. Mais en fait, je crois que Franz Delplanque se concentre sur ses personnages. Il y a John d'abord, ou Jon, je ne sais pas comment on dit, Jon.
Jon,
hein, peut-être, ça s'écrit Jon. Tout d'abord, oui,
on peut imaginer l'accent malgré tout.
Voilà. Ce tueur, disons, ce tueur sexagénaire, il a 68 ans, me semble-t-il, à un moment, il le dit, qui est revenu de tout et qui voudrait quand même enfin avoir la paix au bord de sa plage. Il y a Perle, la belle jeune fille. Pas blonde pour un sou, car en même temps, elle est expert maritime pour les assurances. Il y a aussi Luna, la petite fille de Perle qu'elle a eue tout au début du roman, et qui fait craquer le papy qu'est Yon, finalement, puisqu'il a ses 68 ans bien tassés. Il y a la belle Louise, qui dans le rock préfère le bas, c'est-à-dire le baroque, celui de Lully et de Monteverdi, de Charpentier. Il y a Jean-Luc aussi, le bartender, du bar du coin, qui est fou de rock garage. Il y a aussi Paco, le truand manouche au bon cœur. Et puis il y a les méchants, et il y en a des sacrés. Il y a Burger, bon, c'est un surnom bien évidemment, peut-être Burger en fait, hein, qui est bête et méchant. Il y a Marconi, le patron vicieux, et il y en a plein d'autres. Je vous les laisse découvrir.
Il y a Burger d'ailleurs, non, enfin bon.
Et il y a aussi la Côte Basque, qui est assez rarement...
C'est pas une côte de bœuf là, non, puisqu'on parle
de Burger. Qui est assez rarement mis en scène, qui sert pas souvent de lieu dans les romans noirs. Et puis, on est finalement assez dépaysé avec cette mère qui est jamais là quand on en a besoin ou quand on voudrait y aller.
Ça, c'est complètement subjectif.
C'est complètement subjectif. En plus, bon, en plus des références musicales, c'est souvent c'est un premier roman, il tient l'impression qu'il a vraiment envie de mettre tout ce qu'il a en lui. Et donc, il y a quelques références littéraires, donc il cite celle de l'auteur en même temps, je suppose, hein, puisqu'il est mis dans la bouche de ses héros, mais il cite Ken Bruyne, il cite Léon Blois. Et je voudrais finir mon enthousiaste chronique, n'est-ce pas, avec une citation qui est extraite du roman et que fait dire à son héros Franz Del Planck. Et c'est une citation d'un excellent polar de James Lee Burke qui s'appelle « Dans la brume électrique avec les morts confédérés », dont on a parlé ici.
Donc, ouais, puisque Bertrand Tavernier en a fait une très très bonne adaptation cinématographique, pardon, excusez-moi.
Voilà, donc, John cite Burke et dit, et ce qui pourrait tout à fait faire la devise de l'émission, la vie ne contient pas grand-chose finalement, mais tout ce qui manque est dans les livres.
C'est joli.
C'est très joli, et c'est ce qui va nous permettre de terminer cette
première partie
avant les informations. On se retrouve tout à l'heure.